This is CKCU Literary News. Voici les actualités littéraires dans le monde francophone. Au microphone, Hans-Georges Ruprecht.
C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Claude Redevert, notre nouveau correspondant littéraire en Belgique. Claude Redevert est un écrivain wallon dont l'œuvre littéraire est à facettes multiples, comprenant des recueils de poésie, plusieurs pièces de théâtre et des essais d'intérêt historique. Il est auteur de deux romans publiés aux éditions Renclos, à savoir « À corps vaillant, à corps perdu » et « L'étoile brisée ». Claude Redevert est aussi peintre, dont les œuvres ont été exposées dans des galeries importantes en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, il nous présente ses impressions de la rentrée littéraire belge 2012. Voici donc Claude Redevert.
Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour me permettre de vous parler de notre littérature. Pour débuter dans votre émission, j'aimerais vous parler des nouveautés sur le marché belge. À l'occasion de la rentrée littéraire de cette année, en septembre, les éditions On Lit ont créé une nouvelle collection. Les fervents de littérature pourront y trouver leur bonheur à la lecture des classiques de notre patrimoine. Nombre d'entre eux tombent enfin dans le domaine public et sont partagés par tous ceux qui veulent aussi les inclure dans leur collection. Ainsi, en Belgique, le numérique simplifie tout, paraît-il. Et j'en serais convaincu, car pour une somme modique, les amateurs de Kindle ou d'autres lecteurs électroniques francisants du monde entier peuvent désormais acquérir les trésors de nos écrivains d'antan, et bien entendu, également ceux d'aujourd'hui. La maison d'édition n'a pas attendu pour nous rééditer quelques petits chefs-d'œuvre anciens. Le quotidien bruxellois Le Soir, un peu ironiquement, s'est fait l'écho de ses publications en interrogeant Pierre de Mulhenaere à propos de cette nouveauté. Le directeur de On Lit s'est aussitôt défendu d'avoir imité la collection Espace Nord qui était passée au numérique bien plus tôt que lui. Il affirme avoir poursuivi sa démarche habituelle et non pas uniquement sur les nouveaux supports de lecture. Pour ce démarrage, la collection numérique nous présente donc 5 titres. Le premier, La légende du Lundspiegel, tiré de l'œuvre de Charles de Coster, ce Munichois, tellement bien belge. Puisqu'il est né d'un père flamand et d'une mère wallonne, est décédé en 1819 à l'âge de 57 ans. Comme tous les écrivains de son époque, il étudie en français à la récente Université libre de Bruxelles, toute fraîche érigée, comme disaient ses détracteurs, par les francs-maçons et les juifs contre la suprématie étouffante et l'obscurantisme de l'Église catholique si puissante à cette époque. Il n'est donc pas étonnant que ce journaliste fût libre-penseur et anticlérical. Il devint professeur de littérature à l'école de guerre et bientôt s'intègre au groupe de la Jeune Belgique. Ce cercle est composé d'étudiants, d'artistes et d'écrivains tels que Camille Lemonnier, Georges Eckhout et bien d'autres qui donneront leur nom aux boulevards et aux rues de la capitale parce qu'ils ont offert parfois de leur vivant et certainement après leur mort, la gloire à leur terre natale. Le chef-d'œuvre de Coster, paru sous le titre original de « La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ullenspiegel et de l'âme Gutzak au pays de Flandre et d'ailleurs », fut tellement décrié par ses contemporains sectaires et conformistes que sa célébrité dut attendre et n'atteignit son pays d'origine qu'après avoir fait le tour de l'Europe entière d'abord. Le petit démon qu'est-il incarne l'esprit frondeur d'un peuple riche de son folklore et de ses traditions. L'enfant réjouit par ses facéties le pauvre peuple, aux prises avec un occupant sanguinaire, brimé par l'Église et son inquisition, les fonctionnaires et leurs taxes, l'aristocratie hautaine et méprisante, et la brutalité des troupes de Philippe II d'Espagne. La langue de De Coster est neuve pour l'époque. Dans une tradition rabelaisienne, ce qui lui valut bien plus tard la reconnaissance de la France et son insertion au panthéon des lettres. De Coster a influencé beaucoup d'artistes et le cinéma l'a repris. Qui ne se souvient pas de Gérard Philippe, rieur et farceur, héros du film du même nom, et qui, grâce à l'écran, a fait connaître au grand public le trésor de littérature qu'est Till Eulenspiegel. La maison d'édition On Lit nous offre ensuite une histoire d'amour empreinte d'une passion et nourrie de violence. Sous le titre de « Un mâle », roman de Camille Lemonnier. Lemonnier est né dans les faubourgs de la capitale belge, à Ixelles, en 1844. Contemporain de De Coster, qu'il rejoint pour faire partie de la jeune Belgique, il fut un écrivain des plus prolifiques. Il est belge, lui aussi, mais, à l'inverse du précédent, son père est wallon et sa mère flamande. Défenseur du réalisme, il se fera reporter lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Sa description de la bataille de Sedan laisse déjà paraître le génie qui imprégnera toute son œuvre. Il qualifie le désastre par une odeur de terre, de pourriture, de chlore et d'urine mêlée. Son reportage jette le lecteur dans la fosse où pourrissent les cadavres et où gênent les blessés, comme il écrira dans d'autres récits, tels des animaux humains. Les journalistes catholiques, surnommés les perruques par les révoltés de la jeune Belgique, ses amis, n'épargneront pas la sortie d'un mâle. Ils excommunieront son auteur, qui pour eux, ne possède qu'un style de macaque flamboyant. Pourtant, que de tendresse dans cet écrit, où les kermesses nous ramènent aux œuvres de Peter Bruegel et la vie campagnarde nous repose des aléas de la ville. Excessivement épique, son lyrisme nous berce dans un passé que psalmodie le conteur. Lemonnier mourra encensé par le prix quinquennal de littérature de 1888. Parlant de lui-même dans son esthétique, il s'est défini comme un évadé vers de variables latitudes qui rechigne à se laisser cataloguer sous une étiquette. Notre troisième livre s'intitule « Bruges la morte ». François Rodenbach y chante la ville et son amour perdu. Mort à 43 ans d'une appendicite foudroyante, Georges Raymond Constantin Rodenbach est aussi un contemporain des deux premiers. Il est né en 1855 dans une famille bourgeoise, à la frontière française, dans la ville de Tournai, d'une mère wallonne de Picardie et d'un père allemand. Il étudie à Gand, en français, comme tous les flamands éduqués de son époque. Après ses études, il devient correspondant à Paris pour le journal de Bruxelles. Intime de Edmond de Goncourt, Il publie tour à tour romans et nouvelles, mais sa passion ressort lorsqu'il chante la quiétude des villes qui ont connu sa jeunesse. Erich Wolfgang Korngold s'appuiera sur son livre pour créer son opéra, Die Tote Stadt, la ville morte. Le symbolisme de la pensée pessimiste de Schopenhauer imprègne ses œuvres et ses discours. Lors des réunions de la rue de Rome à Paris, où l'on retrouvait le Gotha littéraire et artistique, Goncourt, Alphonse Daudet, Mistral, Huysmans, Claude Monet, Cézanne, Raffaelli et, bien entendu, le sculpteur Auguste Rodin. Il sera le premier auteur belge à être mis au répertoire de la Comédie-Française. Et Proust l'aurait, paraît-il, choisi comme modèle dans « À la recherche du temps perdu » pour incarner Swann à cause de son petit air raffiné, provoquant et son élégance anticonformiste. Bruges la morte est considérée comme le chef-d'œuvre du symbolisme. La ville y est le personnage central. Elle étale ses états d'âme au lecteur. Le roman fut publié en feuilleton dans les colonnes du Figaro en février 1892. Flammarion le reliera la même année en un volume. Ce volume fut publié avec des croquis de ses quais, de ses canaux, de son béguinage, de son beffroi, faisant ressortir tour à tour l'ombre des hautes tourelles allongées sur le texte. Tout est dans le récit. Thriller, mythe d'Orphée, révisé d'une façon initiatique dans une langue poétique en prose d'un conte symboliste qui reste à jamais universel. On retrouve plus tard le roman repris par le cinéma en 1915 par Evgeny Bauer sous le titre Rêve. En 1980, il est repris par le cinéaste Roland Verhaerwerth sous le titre flamand Brache Distille. Comme les autres grands de son temps, contradictoire à l'extrême, Verhaer ou Maeterlinck, il décline dans sa prose, ou ses vers, la grandeur, la beauté et le charme de la Flandre, mais en français. Le titre suivant est dû à un très 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 grand flamand. Émile Verhaeren, quant à lui, nous secoue par une versification percutante dans ses villes tentaculaires. L'auteur, Émile Adolphe Gustave Verhaeren, que tous les petits garçons wallons et bruxellois de Belgique ont dû apprendre par cœur et qui l'ont détesté autant que le pauvre Jean de La Fontaine en osant pour se défendre dire qu'il le trouvait lugubre et pesant, n'a pas mérité cette injustice. Poète sensible, symboliste, il a décrit avec la brillante musicalité de ses vers libres la conscience humaine des communautés citadines. Comme Jacques Brel, après lui, qui chantait les Flamandes, Verhaeren fut très mal compris par son propre peuple. Les prêtres achetaient la totalité des éditions afin de les détruire et protéger ainsi l'âme pure de leurs ouailles. À partir de 1890, l'écrivain s'intéresse uniquement aux questions sociales. Traduit dans le monde entier, la balance entre les villes tentaculaires et les campagnes hallucinées offrira ses théories anarchisantes aux commentateurs à la recherche de nouveautés. L'auteur s'était lié d'amitié avec ses pairs de l'étranger, Seurat, Degas, Maeterlinck, Mallarmé, André Gide, ainsi que avec Rainer Maria Rilke ou Stefan Zweig, qui furent ses correspondants. Le roi Albert Ier et la reine Élisabeth de Belgique furent ses amis personnels et ils fréquentaient régulièrement le palais de Laeken. Pendant la Grande Guerre, pacifiste au sommet de sa gloire, il écrira depuis Londres, où il s'était réfugié, des poèmes lyriques contre la folie des hommes, et tout le monde s'arracha, la Belgique sanglante ou les ailes rouges de la guerre. Il mourra d'une façon des plus stupides en 1927, bousculé par la foule qui voulait le fêter et qui le poussa accidentellement sous les roues d'un train en partance. Voici un exemple de ces villes parmi les vers de son poème. Tous les chemins vont vers la ville, du fond des brumes, avec tous ses étages en voyage, jusqu'au ciel, vers de plus hauts étages, comme un rêve, elle s'exhume. Là-bas, ce sont des ponts musclés de fer, lancés par bonds à travers l'air. Ce sont des blocs et des colonnes que décorent sphinx et gorgones. Ce sont des tours sur des faubourgs. Ce sont des millions de toits dressant au ciel leurs angles étroits. C'est la ville tentaculaire, debout au bord des plaines et des domaines, des clartés rouges qui bougent sur des poteaux et de grands mâts, même à midi, brûlant encore comme des œufs de pourpre et d'or. Le haut soleil ne se voit pas, bouché de lumière, fermé par le charbon et la fumée. Émile Verhaeren nous secoue par ses vers éclatants. Oui, petit, nous l'avions détesté, mais enfin adulte, nous l'avons apprécié. Et enfin, laissé pour la bonne bouche, semble-t-il, un petit chef-d'œuvre d'effronterie qui défraya la chronique lors de sa parution en 1923. Il ne peut que ravir le lecteur de Zonzon Pépette, fille de Londres, écrit par André Bayon. Zonzon est une jeune prostituée pleine de candeur qui quitte sa terre pour aller vivre dans la grande cité britannique. Amour, amitié, tendresse, mais aussi cynisme et violence parsème cette aventure londonienne. Bayon, plus tardif, commence à produire vers 1920. Il endure une vie de misère, orphelin à 6 ans, souffrant d'une tante bigote et austère, des cours qu'il doit subir chez les jésuites et qu'il supportera avec difficulté, un amour sans réponse pour une demi-mondaine qui finira par le faire expulser de l'université à cause, dirent-ils, de son immoralité et de ses amitiés pour un groupe de socialistes, André Bayon trouvera presque la paix grâce à l'accueil de son frère et d'une dame qu'il épousera. Toute son existence sera parcourue de drames, de rejets, de craintes ou de suicides avortés. Le dernier, d'ailleurs, l'emportera enfin en 1932. C'est une liaison tumultueuse avec sa maîtresse, la poétesse Marie de Vigier, qui l'amènera au succès, si longuement désiré. Ironique, écorché vif, cerné par la folie, cet écrivain un peu moins connu du public que les précédents, André Bayon, se livre d'une façon désespérée et obsédante à une confession empreinte d'un amour rédempteur dans ses écrits.
Merci beaucoup, Claude Redevert, de nous avoir présenté vos impressions de la rentrée littéraire belge. Je vous souhaite bonne continuation dans vos écrits et je vous dis à la prochaine. Au revoir.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!